Bonjour à tous, bienvenue pour la seconde visite radiophonique de l'année avec le retour de Caroline Entregue du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Bonjour.
Et le retour également de Nelly Lafont, chef de projet au Pays d'Art et d'Histoire, nom des Lotes en Gévaudan. Salut Nelly.
Salut.
Alors Caro, on va aller où aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on va aller boire un verre pour fêter notre 30e émission.
Oui, mais alors un verre d'eau. Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entregue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mandé Lotte en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Allez, un peu de route, on vient d'arriver, on est où Caro ?
Là, on est sur la haute vallée du Lot, on est à la bascule un peu du calcaire et du schiste, et nous sommes donc à Bagnoles-les-Bains, ville d'eau. Donc le village, il va se construire sur la rive gauche du Lot, en amphithéâtre un peu de la montagne schisteuse, que l'on appelle la Pervenche, qui est au nord-ouest du mont Lozère. Donc c'est une des deux communes thermales de Lozère, avec bien sûr la Chaldette. Et donc elle a une histoire un peu particulière parce que vraisemblablement, ce village date de l'Antiquité.
Effectivement, on ne peut pas évoquer Bagnoles-les-Bains sans parler des thermes qui sont connus depuis l'Antiquité. Alors aujourd'hui, c'est difficile de savoir quel aspect antique pouvait avoir le village de Bagnoles-les-Bains. On sait à peu près l'occupation que devait avoir l'agglomération autour des thermes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Bagnoles s'appelait Balnéolum, puis son nom a évolué en Baïa et Baillé. Et donc, juste pour compléter, donc on l'a déjà évoqué dans plusieurs de nos émissions, notamment quand on a parlé du château du Tournel, quand on a fait l'émission sur la forêt de la Loubière, la chapelle du Mont Lozère. On est ici dans un secteur qui est parcouru par plusieurs voies romaines et puis après médiévales qui sont très importantes, la via Sotairana notamment, qui reliait la Nuéjol à l'actuelle région de Villefort. Et qui passait par ce fameux col de la Loubière et donc qui place les thermes de Bagnoles et Bagnoles-les-Bains sur un axe important de communication et de circulation qui fait que ça va entraîner sûrement un développement de ce secteur, de ce village avec ces thermes. Donc du coup on peut se déplacer et se rapprocher des fameux thermes.
Oui, peut-être pour te préciser, Ludo, ici nous sommes sur le parking aujourd'hui des thermes qui, originellement, était le lieu d'implantation de l'hôtel, de la résidence thermale, un petit peu qui était face aux thermes, qui a été démoli pour accueillir des Bagnoles, à Bagnoles. Et nous sommes du coup face aux thermes qui ont été complètement remaniés dans les années 70 pour avoir cette architecture assez moderne. D'un architecte qu'on connaît bien, c'est Jean Pétavin, l'architecte aussi de la chapelle du Mont Lozère et également de la bibliothèque et du théâtre qui avait fait l'objet également d'une visite.
Voilà, et aujourd'hui, c'est vrai, pour situer à nos auditeurs, on est donc d'un côté face aux thermes et puis sur notre gauche, nous avons donc le théâtre Oltoladouche, le théâtre municipal de Bagnoles-les-Bains.
Et du coup, ce bâtiment a subi de nombreuses modifications. Il a d'abord été agrandi dans les années 1937. Nelly nous parlera de cette grande époque pour les thermes. Puis, en 1976 et 1978, le remaniement complet de Jean Pétavin. Le seul parti qu'on voit encore du bâtiment ancien, c'est le soubassement, avec des pierres taillées. Et des portes avec une voûte et une partie verticale qui est l'ancien escalier avec ses petites fenêtres. Le reste de l'architecture reprend un jeu un peu d'horizontal. On le voit bien avec la toiture en cuivre qui crée de l'horizontal et également avec les grandes fenêtres panoramiques qui rappellent cette horizontale et qui fait vraiment référence à l'architecture moderne et finalement très peu à l'architecture que l'on a autour, notamment le bâtiment du casino.
Du coup, Nelly, j'imagine que ces termes ont une histoire ?
Et oui, évidemment, depuis l'époque gallo-romaine. Donc là, on a un petit peu avancé. On est sur la passerelle qui relie le parking des thermes aux thermes. On entend d'ailleurs derrière nous le bruit du Lot, hein, puisque le Lot coule le long de la rue principale du village de Bagnoles. Mais on reviendra sur la physionomie du village un peu plus tard. Et donc, pour revenir aux thermes, la tradition a retenu que les bains de Bagnoles auraient été fondés par Domitius, un proconsul romain, en 125 avant Jésus-Christ. L'établissement antique était construit directement en fait, à la captation de la source d'eau chaude. Et donc cette source qui vient de sous la montagne de la Pervenche, hein, qui est située au sud de Bagnoles-les-Bains. Ce qu'on sait donc, c'est que pendant le Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, l'établissement fonctionne sous la protection des barons du Tournel et de leurs descendants. Donc on rappelle, voilà, la baronnie du Tournel qui s'étend dans une partie de la vallée du Lot et dans le Val d'Aunesse. Et donc Bagnoles-les-Bains, nous le savons, est fortifié, hein, puisqu'il est mentionné comme fortifié. Donc est-ce qu'il y avait peut-être un petit château, voilà, on ne sait pas, mais en tout cas il fait partie du mandement du Tournel. On sait aussi qu'en 1764, un éboulement de terrain écrase d'anciennes voûtes et donc fait découvrir la source originelle captée par les Romains. Elle jaillissait large de 3 pouces d'un tuyau de plomb abrité par une coupole octogonale en pierre énorme au milieu d'un carré de 4 toises. Voilà comment c'est mentionné dans les textes. Ensuite, les thermes sont nationalisés pendant la Révolution et deviennent la propriété de la famille Chevalier au début du XIXe siècle. La famille Chevalier, qui est une famille à cette époque importante sur Bagnoles-les-Bains, puisque un des chevaliers sera maire de Bagnoles pendant de nombreuses années, maire et propriétaire de l'établissement thermal.
Du coup, pour rebondir ce que dit Nelly, on sait que au début, l'établissement en 1826, du coup, quand il appartenait justement au chevalier, avait 6 pièces qui étaient les pièces antiques qui étaient construites en sous-sol. Et on sait que cette disposition, elle a été conservée à peu près jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Et les pièces, elles, subsisteront jusqu'au XIXe.
On sait aussi que cette même période, l'établissement thermal sera propriété de la famille de Morangiès. Donc pour nos auditeurs qui suivent nos émissions, n'est-ce pas ? Morangiès, nous en avons parlé pour la visite au château du Boy notamment. On l'a évoqué aussi pour la visite au château de Castanet et à la gare de Guérin. Donc les Morangiès, famille très importante, famille puissante angévaudan, donc qui sont propriétaires jusqu'en 1823. À ce moment-là, c'est Sylvain Boissier, maire de Marvejols, qui devient propriétaire quelques temps, puis ça passe aux mains des chevaliers qui prennent le contrôle de l'établissement thermal et qui deviennent la famille la plus puissante du village de Bagnoles-les-Bains. C'est eux qui vont entreprendre d'importants travaux dans l'établissement et qui vont découvrir 5 nouvelles sources en 1837.
Et du coup, Bagnoles-les-Bains devient en 1857 la première station thermale de France qui était dotée d'un statut d'utilité publique pour les sources alimentant du coup la station.
Et donc, pour terminer sur cette histoire, donc, les thermes vont devenir rapidement archaïques, inadaptés. L'établissement donc, est entièrement rénové en 76 et 78, comme l'a dit tout à l'heure Caroline. Et puis en 97, la cour est transformée en espace de remise en forme.
Et du coup, voilà, une grosse partie de l'établissement va être remaniée en 2020, notamment pour des normes d'accessibilité. Mais cela a permis vraiment de redonner à la salle vraiment des thermes cet aspect un peu romain.
Voilà, donc ce chantier a été confié au cabinet Bessin-Sébelin, architecte. Et puis, alors, on ne l'a pas dit, hein, mais c'est vrai que les thermes appartiennent au département et sont gérés par la CELO.
Du coup, à l'heure actuelle, c'est toujours la même source originelle qui coule ici, dans ces thermes ?
Oui, tout à fait. Ouais.
Et c'est vrai que cette source bloque aussi le développement de la station, puisque il y a une quantité d'eau qui est limitée. On le verra, mais derrière les thermes, il y a une réserve qui a été construite justement pour avoir un débit d'eau suffisant pour l'ensemble de la période des curistes. Et puis un développement de plus en plus vers l'ORL, puisqu'on n'a pas dit, mais le site de Bagnoles-les-Bains, c'est de la rue Matteau et également de l'ORL. Donc la station se développe un peu plus sur le côté ORL pour économiser un petit peu d'eau.
Et donc ça, c'est le volet un peu cure hein, des thermes de Bagnoles. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces thermes ont aussi un volet spa, donc bien-être, qui se développe petit à petit.
Elle arrive à quel degré l'eau ici ?
Il y a 3 sources d'eau chaude à Bagnoles-les-Bains qui ont respectivement donc, des températures de 43, 31 et 35 degrés.
Allez, on va un peu s'enfoncer dans le village pour rejoindre la rue des Thermes. Alors, on vient d'arriver à la rue des Thermes. Caro, quelle est la particularité de cette rue ? Quelle est son histoire ?
Alors, ce qui est intéressant à Bagnoles-les-Bains, c'est que l'urbanisation s'est faite en fonction des rues. Donc, on a la rue de l'église, un peu plus haut, qui est la rue vraiment historique, commerçante au Moyen-Âge. Ici, on a la rue des Thermes, qui est plutôt liée au développement, comme l'a dit Nelly tout à l'heure, de l'époque des chevaliers, la nouvelle rue commerçante d'entrée sur Bagnoles-les-Mains. Et donc, on a la dernière voie, qui est la déviation de la route départementale, qui a plusieurs noms, donc on va juste l'appeler route départementale, et qui, elle aussi, a amené une nouvelle phase d'urbanisation, notamment le multiple rural, que l'on voit à l'entrée avec les commerces, etc. Et c'est vrai que petit à petit, voilà, l'urbanisation s'est faite vraiment le long de ces 3 voies historiques.
Pour que les auditeurs se plongent davantage dans la physionomie en fait de Bagnoles, il faut imaginer en fait un village qui s'est développé un peu en amphithéâtre, un contre la montagne de la Pervenche, et qui va petit à petit, comme le disait Caro, se déplacer, en tout cas déplacer son centre vers le Lot et vers cette nouvelle route qui va être construite en 1840. Donc c'est ce qui va déplacer en fait le centre du village vers ce nouvel axe de communication. Petit à petit, voilà, il va descendre.
Et puisque l'on parle d'axe de communication, on se souvient quand on a visité le Translozérien, mais donc Bagnoles-les-Bains n'a pas sa gare à Bagnoles-les-Bains, elle est à Chadenay, puisqu'à l'époque, les élus n'avaient pas souhaité que la gare amène de la fumée sur Bagnoles-les-Bains. Du coup, ce qu'on te propose, Ludo, c'est de prendre cette rue un peu plus historique, la rue médiévale, qui était vraiment la rue commerçante de Bagnoles-les-Bains.
Et justement, Nelly, à quoi ressemblait le village de Bagnoles à la fin du Moyen-Âge ?
Il faut imaginer une vingtaine de maisons regroupées autour de l'église et peut-être du château, en tout cas d'une petite fortification. Ce qu'on peut rajouter, c'est que en 1364, on a un recensement des feux dans chaque paroisse. Donc les feux, c'est les foyers. Hein, donc, sur Bagnoles, on a environ donc 64 habitants, puisque 8 feux sont recensés. À partir du XIIe siècle, c'est la famille de Villaret, originaire du château du même nom, qui va exercer une influence sur Bagnoles-les-Bains. Et cette famille, donc, bah, peut-être on fera une visite un jour
du Villaret.
Mais donc cette famille du Villaret, juste au passage, donc au XIIIe siècle, pardon, va donner 2 grands maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Donc là, Ludo, l'ambiance de la rue, si on peut la décrire à nos auditeurs, donc c'est une rue qui monte déjà, qui monte de manière assez forte. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment la roche de cette montagne, du coup la roche de schiste, vient appuyer et faire les fondations de pas mal de constructions dans cette rue. Donc on le voit juste à côté, où on voit vraiment la roche et le mur qui sont construites un peu en même temps. Les bâtiments sont plutôt parallèles à la rue, mais par contre, côté nord, on a plutôt des petites cours qui viennent se créer, avec des bâtiments qui sont perpendiculaires, qui montrent une circulation piétonne qui permettait d'aller, à mon avis, sur les parties basses.
Ouais, on est dans une rue qui est étroite. Et on a quelques vestiges qui montrent l'ancienne activité qu'il y avait dans le village, donc avec des restes des shops et puis le volet rural, puisque la majorité des Bagnolais sont à ce moment-là soit paysans, soit commerçants après.
C'est construit quel type de pierre ?
Donc là, c'est des constructions, les murs sont en schiste, on le voit bien, c'est assez horizontal, assez fin. On retrouve cette couleur brune. Par contre, tout ce qui va être encadrement est en calcaire. et on voit quelques belles ouvertures, quelques beaux encadrements, ce qu'on appelle des petites accolades gothiques. On peut voir quelques baies avec des traverses et des meneaux. C'est pas un village qui est en secteur archevêque des bâtiments de France. C'est pas un village, comment dire, typique, très bien conservé. Par contre, il y a une ambiance rurale qui est assez intéressante. On retrouve là, par exemple, la fenêtre de grenier avec la poulie. On va en retrouver comme ça plusieurs le long de la rue.
Un petit arrêt devant une maison atypique.
Oui, donc comme le disait Nelly tout à l'heure, il pouvait y avoir vraisemblablement à Bagnoles-les-Bains un château. Et cette maison, qui est la maison Brun, pourrait correspondre potentiellement à ce site-là. Alors cette maison est très intéressante, elle a un portail ici sur la partie droite qui est assez sculpté. On a des fenêtres avec des traverses et des meneaux, des petites fenêtres en bas avec des accolades. C'est une maison qui est quand même relativement à l'abandon, mais la qualité de cette maison ne se voit pas à l'extérieur, puisque c'est vraiment à l'intérieur que l'on a un très beau plafond peint qui est du coup protégé.
On vient de sortir de la rue, juste à côté de la maison Brun, il y a une petite placette avec l'église du village.
Oui, donc cette église, ce n'est pas l'église originelle, Annelie nous en parlera un peu tout à l'heure. Elle a été construite à peu près à la fin du 19e, en même temps que le nouveau presbytère qui est juste derrière nous.
L'église originelle de Bagnoles-les-Bains était une église romane, évidemment, et elle était dédiée à Saint-Enimie. Puisque la légende de Saint-Enimie, la tradition, la légende plutôt, puisque Saint-Enimie, on ne sait même pas si elle a existé vraiment, mais raconte que Saint-Enimie, donc Enimie, est la fille du roi Clotaire au VIe siècle, si mes souvenirs sont bons, était destinée à se marier avec un homme qu'elle n'aimait pas. Et elle était très pieuse et donc à la veille de son mariage, elle prie Dieu de faire en sorte qu'elle ne puisse pas épouser cet homme. Et donc elle se réveille le lendemain couverte de lèpre. Et donc à cette époque, les thermes de Bagnoles sont réputés dans toute la Gaule. Et donc elle est envoyée en Gévaudan pour guérir. Elle vient à Bagnoles-les-Bains, mais elle ne guérit pas. Et c'est à partir de là qu'elle va aller à Saint-Enimie, donc à la fontaine de la Burle, où elle va guérir et où elle va fonder un monastère. Donc Saint-Enimie aurait séjourné, enfin serait passé à Bagnoles-les-Bains avant de s'installer à la fontaine de la Burle, donc à Saint-Enimie.
Ce qu'on peut dire sur cette église, c'est qu'elle a été pillée, notamment en 1580, époque où les châteaux d'Alenc et du Villaret du coup furent détruits également.
Donc en 1580, c'est les fameuses guerres de religion. Donc on sait que la majorité des églises sont endommagées à ce moment-là. Plus tard, le clocher de l'église menace ruine au 19e siècle. Et c'est pourquoi en 1888, le chantier de cette nouvelle église et du nouveau presbytère, comme l'a dit Caroline, est lancé. Et donc la première pierre de cette église est posée en 1889, le 1er mai.
Mais si tu veux, Ludo, on propose de s'arrêter juste là, devant la rue de la Jarretière, devant une autre belle maison de Bagnoles-les-Bains, qui est le bâtiment de l'ancienne gendarmerie, avec cette grande tour que l'on voit et ce toit à la mansarde.
Pourquoi cette rue s'appelle la rue de la Jarretière, Nelly ?
Alors ça, c'est parce que t'as pas écouté notre visite sur Mende. La Jarretière, parce que c'est la rue de la Jarretière. Dans un village, c'est toujours la rue la plus étroite. Hein. Pour ceux qui connaissent les jarretières, c'est un bout de tissu très très étroit qu'on met sur la cuisse. Et donc, rue de la Jarretière, c'est la rue la plus étroite d'un village. Donc, à Mende, souvenez-vous, je pense qu'on y était passé pour notre visite sur Noël. Mais si, on y était passé. Donc, voilà, la rue la plus étroite de Mende. Et bien, ici, on est devant la rue la plus étroite de Bagnoles-les-Bains.
Ouais, c'est toujours bien de faire des rappels pour les gens qui perdent la mémoire.
Voilà.
Alors, vous m'emmenez ensuite à une pissotière. Ça devient n'importe quoi, ces émissions.
Alors non, ce n'est pas une pissotière, c'est la fontaine fraîche de Bagnoles-les-Bains qui aujourd'hui, c'est vrai, est très carrelée et ne donne pas forcément envie, mais elle a été énormément remaniée au cours du XXe siècle.
On a de nombreuses cartes postales assez chouettes d'ailleurs qui montrent l'évolution de cette fontaine. Donc cette fontaine, c'est la source d'eau froide du village, elle a une température constante de 9 degrés été comme hiver. Et elle serait plus légère que l'eau des Viands. Donc là, bon là, on est seul devant, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent exprès à Bagnoles-les-Bains remplir leurs bouteilles parce que cette eau a de grandes vertus et elle est très appréciée.
Et sa source, du coup, est au cœur de la forêt de la Loubière.
Allez, du coup, on va redescendre vers le parking des Thermes. C'est assez petit, donc, ce centre-village.
Oui, Bagnoles-les-Bains est un petit bourg dans le centre historique. Après, il s'est vraiment développé le long des routes. Juste à côté de nous, on voit le bâtiment de l'école publique, qui est aussi un bâtiment assez remarquable, rénové il y a peu, mais qui montre quand même que Bagnoles-les-Bains était très habité. Et là, ce qu'on te propose, c'est de redescendre à côté de l'ancien hôtel qui s'appelle l'Hôtel du Commerce pour voir une autre époque de développement de Bagnoles-les-Bains, qui est la Belle Époque.
Et là, il y a une magnifique verrière.
Oui, voilà, dans Bagnoles-les-Bains, en fait, il y a un petit peu de traces du début 20e. On retrouve pas mal de fontaines à base de fonte, des luminaires sur la thématique de la fonte. Et là, on retrouve un peu l'âge d'or du thermalisme et qui évoque vraiment... les images que l'on a hein, de Vichy, etc., du début du XXe. Et donc, quand on passe derrière l'Hôtel du Commerce, entre l'Hôtel du Commerce et l'annexe, on tombe devant cette très belle verrière en fer, avec du vert blanc et un petit peu de vert rouge, et des motifs qui sont assez sympathiques.
Pour terminer, donc, un dernier arrêt, on a fait le tour hein, de tout le village. On commence à se... déplacer et rejoindre le parking des Thermes. Et en fait, on fait un arrêt devant la Villa Kreis, qui est située de l'autre côté, sur l'autre rive du Lot, et dont on a, je pense, déjà parlé aussi dans une de nos visites sur Ignon, puisque cette villa a été construite par l'architecte Ignon. Donc, on avait parlé pas mal de ces villas construites à Mende. À cette même époque, donc fin 19e, début 20e, et qui était donc l'ancienne villa du médecin Kreis. Donc une villa avec un caractère assez remarquable, des ouvertures assez travaillées. Donc même si elle a subi quelques modifications et qu'elle a perdu une partie de ses motifs, c'est une villa vraiment caractéristique du début du 20e siècle, donc dans le style un peu art déco.
On peut voir quelques décors encore en céramique où on voit la date 1904. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup plus de décors en céramique peinte sur l'ensemble de la façade qui ont disparu aujourd'hui, mais on retrouve encore des cartes postales et des photos anciennes de cette villa qui est quand même remarquable. On a peu de villas de cette époque-là en Lozère et celle-ci en fait partie.
On a, pour les Mandois ou ceux qui se baladeraient à Mende, on a donc à l'entrée de la rue du Soubeyran, sur votre gauche, donc au niveau de la boulangerie qui est à l'entrée de la rue du Soubeyran, on a une façade avec des éléments en céramique aussi. Voilà, juste pour faire le lien.
Et on retrouve aussi pas mal de cette architecture début 20e sur la commune de Langogne, qui est un très très beau cimetière art déco également.
Allez, on termine cette émission le long du Lot, un petit chemin qui a été aménagé pour la balade. Caro, est-ce qu'il y a une actualité pour Bagnoles-les-Bains ?
Oui, il y a plusieurs actualités. Donc une première actualité qui est déjà plus vraiment une actualité, mais donc le conseil départemental a racheté l'ancienne diligence qui faisait donc la gare, le centre thermal de Bagnoles-les-Bains, qui va bientôt être restaurée pour pouvoir être exposée à Bagnoles-les-Bains.
Autre actualité, on vous donne rendez-vous le 15 et 16 octobre à Bagnoles, donc pour des journées aquatiques, musicales et ludiques. On retrouve le Root Boy Crew avec donc le CAE, le Pays d'Art d'Histoire et le Centre Thermal pour proposer une découverte de Bagnoles-les-Bains et surtout des thermes, puisque les deux sont intimement liés, hein, évidemment. Avec une expérience un peu unique et inédite, puisque la compagnie Braquage Sonore va faire une performance musicale dans les thermes. Donc, vous allez pouvoir profiter de l'espace spa pendant 2 heures, en même temps que d'une création in situ artistique et sonore par Jérôme Hoffmann. Et autour de ça, on vous propose également une découverte du village à ludique à travers un explore game. Il y aura aussi un apéro
eau,
un bar à eau. On va goûter l'eau et pas que l'eau de Bagnoles. Et un petit quiz, un apéro quiz comme on aime bien faire. Un repas partagé. Quoi d'autre
des ateliers pour les enfants. Ouais. Et donc ça sera toute la journée du dimanche. de 9h30 à 17h au théâtre. Et le samedi soir, le fameux quiz du Pays d'Arrêt d'Histoire et la performance.
Pensez à réserver.
On a une anecdote pour Briller en Société ?
Évidemment.
Une anecdote sonore pour toi, Ludo.
Tout à fait. Alors, Ludo, est-ce que tu sais quel est le lien ? Voilà, je vais te faire écouter quelque chose et tu vas essayer de me dire pourquoi je te fais écouter ça.
Je ne connais pas cette cantatrice. On est passé au-dessus du marché tout à l'heure. On entendait justement une cantatrice. Donc, ça a peut-être un lien, mais je ne sais pas lequel.
Eh ben oui, il y avait un rapport. Mais donc, l'extrait qu'on vient d'écouter, il s'agissait de Emma Calvé, qui est une cantatrice nationalement connue à son époque, de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui, figure-toi, est venue séjourner en cure à Bagnoles-les-Bains. Donc elle a connu les thermes de Bagnoles-les-Bains.
À la fameuse belle époque dont on te parlait. Donc c'est vrai que ça correspond à toute cette ambiance un peu de Bagnoles-les-Bains. On invite les auditeurs à regarder les vieilles cartes postales de cette époque qui sont quand même assez remarquables.
C'est ça. Et donc Emma Calvé, qui était notre voisine, hein, puisqu'elle était originaire de l'Aveyron. Elle était née à Decazeville.
Ben merci beaucoup pour cette anecdote et pour cette visite également. Vous êtes en nombreux donc pour ce week-end des 15-16 ici à Bagnoles-les-Bains. On ira où la prochaine fois ?
Alors la prochaine fois,
on vous fait une visite spéciale mois de l'architecture. Donc on va parler plutôt architecture contemporaine et moderne.